souvenez du sujet de ce que moi j'ai apporté?
L'orgueil.
L'orgueil, le maudit orgueil. Hein? On lutte avec ça toute la semaine. Ça, c'est une belle image, hein? Tu sais vous ce que c'est? Un papillon qui lutte avec sa chair, sa vieille peau, sa vieille nature. Alors, on ressemble à ça, hein? Il y a un nouveau cœur à l'intérieur qui veut se développer, et puis il y a le maudit orgueil qui nous enveloppe si facilement. Et puis on est toujours sur les gardes, il faut toujours être sur les gardes, être capable de l'identifier, de dire « Oh, ça c'est mon orgueil, hein? » qui veut prendre la place, qui veut réagir. Puis on dit non, c'est pas ça que je veux. Alors, ça nous colle après, même chrétiens. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de problème avec l'orgueil? OK. Ouf! Je suis pas tout seul. Si la personne avait levé sa main, ça aurait été douteux. T'as levé, toi? OK. Mais si tu lèves ta main, c'est parce que tu as un problème avec l'orgueil. Et la question que je pose, c'est comment est-ce qu'un être humain qui est orgueilleux de nature, hein, on a tombé dedans quand on était petit, là, comment est-ce qu'un être humain qui est centré sur lui devient un humble serviteur à l'image de Jésus, à l'image de ce que Dieu nous a fait, un chrétien qui aime Dieu, un chrétien qui aime ses frères et sœurs, un chrétien qui aime son prochain. Comment on passe d'un être orgueilleux à un humble serviteur? Ça, c'est la question que j'aimerais qu'on regarde ensemble, qu'on réponde. Et la première chose, c'est ça prend un miracle. Ça prend un miracle. On ne peut pas faire ça tout seul. Hein? C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Et le problème à la source, le problème qui... pourquoi est-ce qu'on est orgueilleux? C'est qu'un jour, on a décidé de mettre Dieu dehors. Dehors de la planète, dehors de nos vies. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, lorsqu'on est débranché de la source, on essaie de se brancher ailleurs. Et on devient centré sur nous-mêmes. On a gobé le mensonge du diable. Le diable a fait croire à nos premiers parents, vous serez comme Dieu, vous serez comme des dieux. Vous allez pouvoir décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et regardez la société. Est-ce que ça a changé? On est indépendant. On est libre. C'est nous qui déterminons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et on a mis Dieu dehors. On a mis Dieu de côté. Ça, c'est le problème à la source. Et automatiquement, la minute qu'on a mis Dieu dehors de nos vies, on devient centré sur nous, égocentré. Hein? Et ceux qui ont suivi les forteresses, vous allez vous rappeler du boss et du tapis. Alors, on est entre les deux. Des fois un, des fois l'autre. Et des fois plus souvent un que l'autre, et vice-versa. Mais c'est deux façons dont la nature égoïste se manifeste. On devient idolâtre, on s'aime soi-même, on s'assoit sur le trône, puis on exige que tous les autres nous servent et nous remplissent de tout ce qu'on n'a pas. On veut être adoré. Ou bien, il y a l'autre, si on ne réussit pas à être le boss, bien, on fait le tapis, puis là, bien, on est courbé devant la créature, dominé, dépendant, à la merci de ce que les autres vont penser ou dire ou faire. Je me laisse passivement abuser, maltraiter, brimer, critiquer, blâmer, démolir, tromper, enjôler, séduire pour être aimé et apprécié ou par peur de ne pas l'être. Je suis dominé par le besoin de plaire aux autres. Je suis idolâtre, centré sur moi. Alors, ça, c'est le portrait de l'être humain sans Dieu. Et au lieu d'être un vase qui est rempli de l'amour de Dieu, un vase qui est rempli de la valeur que Dieu lui a donnée, puis qui déborde sur les autres, on devient des vases vides, on devient des sangsues qui sont collées. Vous avez l'image de la sangsue, là, qui est collée, on est collé l'un sur l'autre, on essaie d'extirper un petit peu de, hein, de bonheur, de valeur, d'amour les uns des autres. Et la question, si le problème, c'est qu'on est débranché de la source, la solution, c'est se rebrancher sur la source, n'est-ce pas? Si le problème de l'être humain, c'est qu'on s'est débranché de Dieu, on a mis Dieu dehors, on dit, on va faire nos vies comme on l'entend, comme on veut, hein? On est libre, et puis on a choisi de mettre Dieu de côté, puis de faire à notre guise. Et la solution, c'est rebrancher. Et le problème, c'est impossible. C'est impossible à l'être humain de se sauver lui-même, si on peut dire, de rebrancher sur Dieu. On est fait. Nous étions faits. On ne pouvait pas se rebrancher sur Dieu. Ça a été brisé. Non seulement on s'est séparé de Dieu, mais Dieu s'est séparé de nous et Dieu ne peut pas entrer dans la présence du péché. J'ai dit le mauvais mot. Ben m'a dit que péché, c'était plus à mode. Mais là, je le cite des fois. Oui. Hein? Le mal, hein? L'erreur, le mensonge. Oui. Alors, c'est impossible à l'être humain de se rebrancher avec Dieu. Ça a pris un miracle. Et le miracle, c'est ce qu'on célèbre à Noël. C'est Dieu, lui, s'est fait homme. Il est venu habiter avec nous. Et il a rebranché. Il nous a rebranchés avec lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à Noël, là, on est rebranchés avec Dieu. Jésus est venu. Et c'est son initiative. C'est lui qui nous a... Au lieu de rebrancher, là, il y a un mot dans la Bible qui revient souvent, hein, comme dans 2 Corinthiens. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un... En nouveau. Hein? Recréé. L'ancien état est dépassé et passé même. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Tout cela, du début à la fin, est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec lui-même par le Christ. Il nous a confié le ministère de la réconciliation. Pourquoi est-ce que on est encore ici, sur terre? Pourquoi est-ce que, quand on accepte le Seigneur, ouf, on ne va pas direct dans la présence de Dieu? Parce qu'on a une mission. Il y en a d'autres qui ont besoin d'entendre ce message-là, et nous sommes les ambassadeurs. Hein? C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Nous avons reçu la mission. Nous parlons en ambassadeur du Christ. C'est au nom du Christ que nous les supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est notre message. Et il le dit aussi ailleurs dans Romains. Nous étions les ennemis de Dieu par nature, mais lui est descendu, il est venu sur terre, et il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. Nous sommes rebranchés à la source. On est rebranchés à la source de la vie, à la source du bonheur, à la source de l'amour, à la source de la joie, à la source de la paix. Avant ça, on était débranchés, on était laissés à nous-mêmes, et puis on récoltait ce qu'on semait. Maintenant, en Jésus-Christ, on a accès, on est rebranché à la source de la vie, à la source du bonheur. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, je le dis souvent ça, devriez savoir la réponse. Si je ne suis pas heureux aujourd'hui, je ne le serai pas demain. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas heureuse assis aujourd'hui, là, si tu n'es pas heureux, tu ne le seras pas demain. Tu vas trouver un cœur qui aime Dieu. Tu vas trouver un cœur d'humble serviteur. Un cœur qui a mis l'orgueil de côté puis qui compte sur Dieu. Alors gratte comme faut. Puis quand tu es au bout de tes ressources, tu es au bout de tes forces, ce que tu vas trouver dans le fond, là, c'est ce nouveau cœur-là que Dieu t'a donné, puis tout d'un coup, ça va repartir. Hein? Alors, j'aimerais vous dire que c'est un changement instantané. Et puis, le jour où tu nais de nouveau, le jour où tu acceptes le Seigneur, que tu reçois un nouveau cœur, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est automatique, que tu ne feras plus rien de mal, rien qui déplaît à Dieu. Tu ne vas ne faire que ce qui est bon, parfait, et tu n'as plus de lutte, tu n'as plus de tentation. Les tentations rebondissent sur toi comme si, si tu avais un gros écran, puis tu n'es plus atteignable par la tentation. Et mauvaise nouvelle, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu te retrouves pas mal comme c'était avant, au début. Hein? Il y a quelque chose de changé à l'intérieur. Et si on devenait parfait du jour au lendemain, je pense qu'on ne serait plus parlable. Il n'y a plus personne qui voudrait nous approcher. Et puis on serait dans une classe à part, tellement à part qu'on n'aurait plus d'impact sur les gens qui sont autour. Il y a une église, autrefois, j'ai connu, ils pensaient que le pasteur était parfait. Jusqu'à temps qu'il fasse un burn-out, puis il s'est retrouvé KO sur le tapis, plus capable de rien faire, le pasteur omnipotent est mort. Il était mort. Et ce que ça a fait dans l'église, c'est que les gens ont dit, « Wow! Ça nous a fait du bien, Michel. » T'es humain. Hein? Il était content. J'étais humain. Comme les autres. Et en parlant d'humain, non, la réalité, c'est que c'est un processus. Hein? C'est un processus. Oui, on a un cœur nouveau qui aime Dieu, qui veut aimer Dieu, puis qui a ses pensées renouvelées. Puis, Paul décrit ce processus-là comme se dépouiller de la chair, comme enlever un vieux vêtement, et c'est quelque chose que nous on fait. On se dépouille d'un vieux vêtement, du vieil homme. On met à mort la chair avec ses convoitises. C'est comme si on enlevait un vieux vêtement, on le met de côté, on dit non à ça. Hein? Essayez ça cette semaine. Essayez d'identifier l'orgueilleux qu'il y a en vous. Puis, il faut développer le réflexe de dire non. Ça, c'est l'orgueil, yark. Et vous allez éviter un paquet de troubles, un paquet d'angoisses, un paquet d'amertume. Et si on réussit à dire non à l'orgueil, wow! Et une fois qu'on a dit non à l'orgueil, il parle de se revêtir maintenant, se revêtir d'humilité. De dire, je n'ai pas à défendre ma cause, je n'ai pas à prouver à qui que ce soit. Non, devant, c'est Dieu qui me donne ma nouvelle identité. C'est en lui que j'ai la paix. Je suis en sécurité parce qu'il m'aime. Ailleurs, il parle d'une marche. Quand on marche, on fait pas à pas. Hein? Un pas devant l'autre. Alors, c'est un processus, ça. On marche avec Dieu pas à pas. On progresse tous les jours en marchant avec Dieu. Ne marchez plus selon la chair, marchez selon l'esprit, enlevez cette vieille façon orgueilleuse-là de réagir puis d'agir, puis revêtez-vous d'une nouvelle façon d'agir, qui est l'humilité. Alors, c'est maintenant qu'on a un nouveau cœur, on peut faire ce choix-là. On peut décider de mettre de côté la vieille nature, cette vieille peau-là, et puis choisir maintenant de vivre quelque chose qui honore Dieu. Si, par malheur, un chrétien choisit de vivre sans Dieu, de retourner à son ancienne vie, de vivre comme le monde vit aujourd'hui, de vivre selon la chair, il est libre. Mais il n'est pas libre des conséquences. Et il va récolter la même chose que celui qui est dans le monde. Le fils prodigue, il a décidé d'aller voir ailleurs, d'écœuré de la vie avec son père. Et il n'avait pas réalisé toutes les bénédictions qu'il y avait à vivre avec Dieu. Il a décidé d'aller voir ailleurs. Et c'est une image qui me bouleverse beaucoup. Il a laissé faire. Puis même, il lui a donné tout son héritage. Il a tout donné, sans dire un mot. Il savait ce qu'il allait faire avec. Il l'a laissé faire, il l'a laissé libre. Vas-y, mon gars. Parce que l'enfant prodigue avait besoin d'aller jusqu'au bout de sa misère, récolter ce que les autres récoltent, pour revenir à lui-même, c'est écrit, et revenir ensuite à son père. Alors, es-tu écœuré de la vie sans Dieu? Ça mène nulle part. Les gens sont heureux, là. Non. Reviens. Reviens à ton Père. Il t'attend les bras grands ouverts. À ton Père céleste. Alors, comment est-ce qu'un orgueilleux de nature devient un serviteur, un humble serviteur? Ça, c'est la question que j'ai posée. La première chose, c'est un miracle. Un changement de cœur. Il faut avoir un cœur transformé. Et la deuxième chose, il faut que ce cœur-là batte pour le Seigneur, qu'on le laisse battre pour le Seigneur. Un cœur qui aime Dieu, et un cœur qui aime les frères et sœurs, et un cœur qui aime son prochain. Maintenant, j'ai un exemple, une histoire de cas, je pourrais dire. L'apôtre Pierre. Il est passé d'un orgueilleux, ce qui est orgueilleux, Pierre, à un humble serviteur. Est-ce que ça s'est fait instantanément? Ça dépend. OK, on va regarder ça ensemble. Est-ce que Pierre était sauvé? Est-ce qu'on a des évidences que Pierre était sauvé? On a sa profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que c'est pas toi-même qui t'as trouvé ça, mais c'est mon Père qui te l'a révélé. Il y a vraiment une profession de foi où il a dit, oui, je crois que Jésus-Christ, c'est mon sauveur. C'est le sauveur et mon sauveur. Et même Jésus, il a fait une promesse. Il a dit, tu es Pierre. Puis sur cette pierre, sur son témoignage ou sa vie, qui allait bâtir son église, et Pierre est devenu comme les fondements de l'église de Jésus-Christ. Alors oui, Pierre a accepté le Seigneur, il a reçu un nouveau cœur dans notre langage, et on a aussi l'épisode dans Jean 13 où Jésus lave les pieds de ses disciples, et dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur, il lui suffit de se laver les pieds, alors vous êtes purs, mais non pas tous, en parlant de Judas. Donc, il y avait le sceau que Pierre était vraiment un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des traces de la vieille nature dans Pierre, même s'il a fait profession de foi, même si il y a eu une nouvelle nature, est-ce qu'il a été changé instantanément? Non. Alors, on connaît cette histoire-là, où qu'est-ce qu'il essaye de faire, Pierre? Jésus, il dit, m'en va te donner ma vie pour sauver le monde. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Inquiète-toi pas, Seigneur. Pierre est là. Je suis là, et puis ça t'arrivera pas, tant que tu es avec moi, tu es entre bonnes mains. Je caricature un petit peu, là. Pas d'annonce. Mais Jésus a reconnu que ça venait derrière, il dit arrière de moi. Ça. Tout de suite avant, il venait de dire, Pierre sur Pierre, je bâtirai cette église, juste quelques versets avant. Et là, mon Pierre, je sais pas, il était pompé un petit peu. Et puis, il voulait sauver le sauveur. Et puis, le Seigneur, il fait ce reproche-là, la chair stupide, l'orgueil qui est encore là, dans Pierre. Je pense que c'est assez évident. Et vous connaissez aussi un peu plus loin, même à la veille de trahir, mais si tous les autres t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Comment on appelle ça? L'entardise, l'orgueil, encore une fois. Et Jésus lui répond, tu vas me renier trois fois. Puis Pierre réplique, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Alors, on voit des traces d'orgueil. Même après avoir accepté le Seigneur, même après avoir été régénéré. On peut dire, bon, il n'y avait pas l'esprit. Il n'a pas reçu l'esprit encore. Donc, c'est normal. Mais il y a cet épisode-là après, dans Galates, où Pierre, qui avait été une colonne dans l'Église, comme Jésus l'avait prédit, Paul dit, quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. Et il avait peur des partisans de la circoncision. Il a entraîné Barnabas dans l'hypocrisie. Quand j'ai vu qu'il ne se conduisait pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre devant tout le monde, toi qui es juif, Pierre, il mangeait avec les non-juifs. Et puis quand les juifs sont arrivés, c'est comme mis à part, c'est séparé d'eux parce qu'il avait peur de ce que allaient penser ceux de sa race. Et est-ce qu'il y a de l'orgueil là-dedans? Et il était une colonne là, dans l'église. Il était encore aux prises avec l'orgueil. Est-ce qu'il y a des traces de la nouvelle nature? C'est ça qu'on cherche. Qui a écrit ça? C'est Pierre. L'apôtre Pierre. Et ça fait drôle de lire ça dans sa bouche quand on connaît son histoire. Et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité. C'est Pierre qui dit ça. Revêtez-vous d'humilité. Car l'Écriture déclare, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, puis lui va vous élever au moment que lui aura fixé. Il y a beaucoup d'expérience derrière ça, de l'apôtre Pierre. Inquiète-toi pas, Pierre. Alors, on voit que la nouvelle nature a fini par prendre le dessus. Vous vous souvenez aussi de quand Pierre a renié Jésus? Pierre se mit à dire, je le jure que je sois maudit. Si ce n'est pas vrai, je ne connais pas cet homme. La chair était très active à ce moment-là. Que la malédiction de Dieu, que le châtiment de Dieu soit sur moi si je mens. Et il mentait. Et il était chrétien. Né de nouveau. Et les traces de la nouvelle naissance? Il est allé se pendre. Non. Il a pleuré amèrement. Il s'est retiré et il a dit, ouch, ouch, quel orgueilleux j'ai été. Quel orgueil. Hein? J'ai renié. J'ai juré de ne pas le connaître devant tout le monde. Est-ce que l'histoire s'arrête là? Il s'est rappelé ce que Jésus lui avait dit. Hein? Simon, Simon, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, tu sais, quand ça brasse, là, quand tu es dans le milieu de l'épreuve, tu es comme passé au crible. Mais il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis les frères. Pierre sûrement s'est souvenu de cette promesse-là. Et il est revenu au Seigneur. Et ensuite, le Seigneur apparaît aux douze. Et il y a des petites choses hein, qui devaient chatouiller Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui touchait à l'orgueil de Pierre là-dedans? Et qu'est-ce qu'il voyait dans son cœur? Dans la question qu'il lui pose, là, la première. OK. Le Seigneur voulait tester quelque chose. Je l'ai souligné. Aussi pas digne dans la honte, porter la honte. Ouais. Oui. Ils ont tous renié. Mais Pierre, il avait dit quoi? Il a dit si toutes les autres te renient, pas moi. Et regardez la réponse. La première chose que Jésus lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Plus que ne m'aime ceux-ci. Il y a vraiment, comme Benoît dit, il a mis le doigt en plein sur la plaie saignante. Là. Est-ce que tu m'aimes plus que les autres, Pierre? Et il ne l'a pas répété. Hein? Et combien de fois est-ce que le Seigneur lui a demandé? Trois fois. Pourquoi? Il a renié trois fois. Alors, c'est fort possible que le Seigneur, il a comme, hein, on pourrait dire, réparé, donné l'occasion à Pierre de le confesser son nom trois fois, comme il l'avait renié trois fois, comme pour réparer, effacer cette chose-là. Ouais, ouais. Et ensuite, le Seigneur a dit, OK, Pierre, paie mes brebis. Oui, Marc?
Oui, j'ai entendu cette semaine dans une conférence que aussi, quand, et c'est vrai, quand le Seigneur a donné une vision à Pierre, avant qu'il aille chez Corinne, avec la marque, il descend du ciel et
oui.
Les animaux et tout, c'était... Trois fois
aussi. Ah oui?
Oui, il a vu la scène trois fois dans sa vie.
Oui, oui, oui.
Ah, en plus, c'est une idée, trois
fois. Oui. Est-ce que. Ou est-ce que le Seigneur a besoin de nous répéter trois fois la même chose? Avant qu'on comprenne? Fait que trois, c'est la moyenne, disons. Hein? Mais oui, le Seigneur va mettre le doigt sur le bobo. Oui. 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 Paul aussi a prié trois fois que cette écharpe qui soit guérie de l'écharpe. Avant qu'on comprenne. Non? Besoin d'être confirmé dans notre identité. Okay. Et ça se termine bien. On voit le Pierre orgueilleux qui était toujours le premier. Hein, lui a marché sur l'eau, lui. C'est le seul être humain, à part Jésus-Christ, je pense que je connais, qui a fait ça. Il y avait de quoi se péter les bretelles. Mais je pense que c'est plus le même Pierre, là. Le Pierre, il devient le leader parmi les disciples. Il devient une colonne dans l'Église. Et je pense qu'il a appris à se dépouiller de son orgueil et à revêtir l'humble serviteur. Amen. Essayons ça cette semaine. Puis, si je peux vous léguer quelque chose de l'Église de je sais pas quoi, être capable de déceler, hein, d'être capable de mettre de dire, oh, ça c'est de l'orgueil, ça c'est mon orgueil. Hein? Si j'étais pas chrétien, c'est comme ça que. Hein? C'est capable de dire, juste l'identifier à temps. Puis de choisir de ne pas, hein, juste rester humble dans cette situation-là. On va s'épargner tellement de méchanceté, tellement d'amertume, tellement de problèmes. On va se préparer pour la table du Seigneur.